France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un des artistes les plus influents des 15 dernières années. Un musicien qui a réussi à inventer un langage immédiatement reconnaissable sans jamais cesser de le faire évoluer. James Blake, c'est notre invité, c'est d'abord une apparition, celle d'un jeune producteur anglais venu de la scène dubstep, capable de transformer quelques silences, une ligne de piano, une basse profonde et une voix presque fragile en émotion. Mais James Blake, c'est pas seulement une atmosphère, c'est aussi un architecte sonore, un auteur majeur, un collaborateur recherché par tout ce que la musique contemporaine compte de géants. Beyoncé, Kendrick Lamar, Frank Ocean, Rosalia, Travis Scott, Dave, tous sont venus chercher chez lui quelque chose d'unique, une intensité, une profondeur, une manière très singulière de faire respirer les morceaux. Au fil des années, il a construit une œuvre à part entre soul futuriste, électronique, pop spectral et hip-hop sensible, une musique qui parle d'amour, de solitude, d'anxiété, de désir sans jamais céder à la facilité, une musique intime qui a toujours su dialoguer avec son époque. Et aujourd'hui, James Blake ouvre un nouveau chapitre, un septième album, Trying Times, qui sort cette semaine. Un disque qui semble regarder à la fois vers l'intérieur et vers le dehors, vers les fragilités intimes comme vers les secousses du monde. Un album qui parle de notre époque, de ses incertitudes, de l'instabilité ambiante, mais aussi de ce qu'il reste quand même, l'amour, la présence, la possibilité d'un apaisement. Et puis, un nouveau chapitre aussi, parce que ce disque marque une forme de reprise en main avec un James Blake plus indépendant, plus libre. On va parler de tout ça avec lui ce soir, de ses débuts dans le sud de Londres, de sa relation au piano, de son amour pour Stevie Wonder, de son lien si fort avec le rap, de sa manière de traiter sa voix comme un instrument à part entière, de ses combats contre les logiques trop formatées de l'industrie musicale et bien évidemment de ce nouvel album Trying Times. James Blake est avec nous ce soir à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
James, nice to meet you.
Nice to meet you too.
Très heureux de te rencontrer ici. On est à Paris et je crois que tu as grandi dans un environnement très musical. Est-ce qu'il y a des artistes français avec lesquels tu as grandi plus jeune?
Eric Satie.
Oh, Eric Satie, ok.
Les autres musiciens français.
Est-ce que c'était ton père qui te faisait écouter ces artistes?
No, that was me.
Non, c'était moi.
And there were some others.
Il y en avait d'autres, mais pour mon père, j'ai pas vraiment grandi dans une énorme quantité de musique française, pour être sincère. J'y suis venu plus tard, par la musique classique.
Qu'est-ce que tu écoutais quand t'étais enfant?
J'écoutais ce musicien qui s'appelle Sonny Boy Williamson, un joueur d'harmonica, de blues. Beaucoup. J'écoutais
Level
42. J'ai écouté Mike and the Mechanics,
Mariah Carey,
Destiny's Child.
Yeah, like Massive Range.
Ouais, une grande variété.
Je pense que c'est intéressant car on vient de commencer à parler de musique classique, de R&B, de pop. Mm-hmm. Et depuis que j'écoute ta musique, ça fait plus de 10 ans maintenant, je t'ai toujours vu comme un artiste qui peut unifier des genres très différents, qui peut ramener des gens de la musique électronique, du rap. Mm-hmm. Est-ce que tu vois la musique comme ça? J'ai toujours eu du mal à te catégoriser dans un genre. Est-ce que tu vois la musique comme ça, ouais, comme un moyen de connecter des genres très différents?
Well, I guess with most artists,
je crois que la plupart des artistes ne voient pas vraiment les limites des genres musicaux comme très définies. Au contraire, peut-être des gens qui vendent la musique. Parce que là, ça devient un vrai supermarché avec des fruits, des légumes, blablabla. Et quand on cuisine un repas à partir de ces ingrédients, on ne les catégorise pas aussi rigidement. C'est surtout parce que la musique, c'est une langue de l'esprit. Parlée par des gens qui atteignent cette forme de communication par le même cheminement émotionnel, souvent, très souvent. On rencontre des gens dans la musique qui semblent des esprits proches, alors qu'ils sont d'une culture complètement différente, avec un bagage complètement différent. Et ce qui te connecte, c'est pas nécessairement une culture, une langue ou autre chose. C'est souvent quelque chose d'émotionnel, de spirituel, et parfois d'artistique.
Tu as mentionné le fait que les personnes qui font de la musique peuvent voir ça comme un supermarché. Tu as été très présent sur les réseaux sociaux pour combattre l'industrie musicale. Maintenant, tu es indépendant, c'est ton premier album en tant qu'indépendant que tu sors tout seul. Pourquoi c'est important pour toi? Tu as parlé des plateformes de streaming, comment elles peuvent être réductrices pour les artistes, comment elles peuvent freiner la créativité. Pourquoi c'est compliqué pour beaucoup d'artistes de gagner de l'argent avec les plateformes de streaming, etc. Pourquoi c'est important pour toi de sortir cet album par toi-même, par tes propres moyens?
Je ne me bats pas contre l'industrie du disque. Je ne me sens pas en ordre de bataille. J'ai l'impression d'avoir invité beaucoup de gens à rejoindre une nouvelle façon de voir les choses. Et moi-même, j'ai découvert beaucoup de nouvelles façons de penser grâce à des gens qui ont de super idées. L'industrie, elle change déjà un peu. On peut voir que les choses se restructurent. Les majors font l'acquisition de moyens de distribution. Et des marques ou des labels qui semblent indépendants ne sont plus si indépendants que ça. Elles trouvent le moyen de survivre. Mais l'industrie, 0,2% du profit de l'industrie va aux artistes. Tu vois? Je
ne
suis pas sûr que quelque chose ait changé. Ça va être une nouvelle forme du même système. Ce qui va changer, ce qui change,
c'est
que les artistes veulent se sentir à l'aise en signant un contrat qui vend leur master pour toujours. Ils veulent être à l'aise avec les termes, avec les clauses. Je pense que ça change. Je pense que la valeur d'un musicien indépendant, elle augmente. Je pense que le prix d'un artiste qui connaît son métier, il augmente. Un ami à moi, Moses, il dit qu'il aurait aimé savoir à ses débuts que sa musique était une petite entreprise. Et je pense que c'est vrai, les artistes, ce sont des petites entreprises. Les artistes, ce sont vraiment de petites entreprises. Tout le monde le sait, sauf eux.
Quand tu as sorti ton premier album en 2011, qui s'appelle James Blake, est-ce que tu étais au courant de tout ça? Est-ce que tu te voyais aussi comme un businessman, comme un chef d'entreprise ou uniquement comme un artiste?
Mais pas du tout, non. On n'a pas besoin d'être un businessman.
Est-ce que tu dois en être un, peut-être?
Je pense qu'il faut avoir les mêmes informations que le reste de l'industrie. C'est ça que nous n'avons pas encore. Pour le moment, rien n'a mis ces informations dans les mains des artistes. C'est une chose à laquelle j'aimerais participer à l'avenir. Moi, je ne connaissais rien. Je dirais que je savais rien jusqu'il y a 2 ans. Je savais des trucs. Mais je me concentrais sur la musique. C'est ce que je veux. Je veux me concentrer sur la musique.
Mais
je n'avais pas assez d'espace pour m'intéresser au reste. C'est ce que j'ai fait ensuite, autant pour moi.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans?
Ça a commencé en fait par un post sur Instagram d'un musicien qui parlait de la façon dont nous sommes conduits à devenir des machines pour TikTok. J'ai regardé ce qu'il disait et j'étais complètement d'accord. Alors j'ai lancé mes propres réponses. J'ai commencé à faire des tweets et des posts sur Instagram. Et ces posts sont devenus extrêmement viraux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je voulais juste me plaindre et parler des problèmes que rencontrent les artistes, selon moi. Alors c'est devenu tellement immense que je me suis retrouvé dans la lumière. Et j'ai dû apprendre véritablement à savoir ce que je voulais dire et quelles pouvaient être les solutions. Je voulais pas être le mec qui se plaint. Je voulais agir.
On va écouter un extrait de l'album Trying Times. C'est le morceau I Had a Dream, She Took My Hand. Pardon pour mon accent. Donc morceau extrait du nouvel album de James Blake. I Had a Dream, She Took My Hand, donc morceau qu'on vient d'écouter, signé James Blake, notre invité ce soir dans La Régulière.
France Inter, Mehdi Maizi, à La Régulière.
Ton nouvel album s'appelle Crying Times. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que c'est un album qui parle plutôt de toi ou plutôt de l'époque dans laquelle on vit?
Je dirais que l'album parle de la réconciliation d'un tout petit individu avec la vie, avec ses rêves, ses aspirations, avec l'amour, l'amitié, et de nos problèmes avec les informations que nous recevons maintenant de partout. Et tu vois, à quel point on participe, ou à quel point on est complice, ou à quel point on interfère avec tout ça, en fait. Et ce sentiment qui flotte dans l'air, que tout le monde peut éprouver, c'est ça que j'ai pris comme... matériau pour écrire.
Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de solitaire?
Non.
Non, ok.
Non. Not anymore.
Okay.
Plus maintenant.
Tu en étais un avant?
Yeah, I would say so.
Je dirais que oui.
I think that's maybe why my music.
Je pense que c'est peut-être pour ça que ma musique est devenue plus ouverte, moins intérieure.
Because, you know, I think loneliness sometimes can come from this feeling of.
La solitude, ça peut parfois venir de ce ressenti, de se retrouver tout seul, avec ses addictions, avec ses mécanismes pour aller mieux contre le monde entier. Et ça peut ouvrir une sorte de spirale. Parce qu'au bout du compte, on fait avec ses addictions, avec ses démons. Et plus j'en parlais ouvertement de ces addictions, de ces démons, je voulais les dépasser. Et plus je les mettais sur la table, plus j'en parlais comme c'était pas moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux oublier maintenant, avec l'aide de mes proches.
Sur l'album, il y a une collaboration avec quelqu'un d'ailleurs qui était à Paris en concert il y a quelques semaines. Quelqu'un avec qui, on le sait, t'aimes beaucoup collaborer, c'est Dave, le rappeur, un rappeur exceptionnel. Quel est le secret derrière votre alchimie? On voit que ça marche entre vous, on sait que vous êtes amis. Alors parfois, l'amitié donne pas vraiment de la bonne musique, mais pour vous, ça marche. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche si bien?
Je sais pas.
You know, firstly, it's rare that I have that type of.
D'abord, c'est rare que j'ai ce genre de relation où on ne trouve vraiment aucune. C'est rare que j'ai ce genre d'alchimie avec un homme.
Men maybe more often find each other.
Les hommes souvent, ils se ressentent comme menaçants.
Because we do something so so different.
Mais comme on fait des choses tellement différente, comme on admire ce que l'autre fait, ce qu'il fait dans une autre voie. Je pense que là, c'est facile de se montrer à chacun un soutien complet. Et j'ai pas eu ça très souvent. Je donne souvent ça à d'autres hommes, j'essaie de trouver ça pour eux, mais je trouve pas que ça a du répondant. Je trouve que les mecs, ils me rendent pas ça.
And I think
et je trouve que Dave, il est si confiant,
and so, secure,
si sûr de son travail.
So kind of,
il est,
yeah, in his own, he's just so strong in what he does.
Il est si fort dans ce qu'il fait.
It works really well, and then also just
que là, ça marche vraiment bien. Et aussi, on a le sens de l'humour.
We just make each other laugh and,
enfin, on se marre, quoi.
We don't take ourselves.
Et c'est drôle. Même si nous sommes des musiciens ou des artistes qu'on dit sérieux, on se prend pas vraiment au sérieux.
Tu veux dire quelque chose d'intéressant? Je pense que parfois les gens peuvent te voir comme quelqu'un de sérieux, voire même une personne triste, peut-être à cause de ta musique, aussi à cause de clichés qu'on peut avoir autour de ta musique. Mm-hmm. Est-ce que ça a été parfois un peu embêtant qu'on te voit uniquement comme le roi de la tristesse ou de la mélancolie?
Je pense que beaucoup de gens me voient comme je me présente, en fait. Et beaucoup de gens ne peuvent pas non plus... Enfin, pas beaucoup. Attends, je vais reprendre. Les gens me posent toujours des questions chiantes et tristes. Et moi, je leur donne des réponses chiantes et tristes. Parce que, du coup, je suis le reflet de leur énergie. Et ils ont la réponse à la question qu'ils m'ont posée. Je peux pas poser une question marrante sur la dépression. Je peux, et je le fais souvent. Mais si on parle de la santé mentale des hommes, ou un problème sérieux, je peux pas travailler à partir de ça. J'ai pas assez d'espace pour injecter ma propre personnalité. Alors pour être franc, je pense pas que les gens aient historiquement voulu voir ma vraie personnalité, jamais. Je pense qu'ils veulent juste entendre le miroir de leur propre idée, de leur idée préexistante de ce que je suis.
Et on retourne en 2013, tout de suite on va s'écouter le morceau DLM extrait de l'album Overgrown.
She knows a good thing more with all my path and darkening her door. In my hair and in my thoughts. In my hair and in my thoughts. We spend the whole day so we're feeling more apart than we know we can do more. Please don't let me hurt you more. It's in your stare and at your core. Please don't let me hurt you more. Please don't let it hurt you more. I know this journey soon. The color of our light and our lives they can resume. Please don't let it hurt you more. It's in your stare and at your call.
C'était DLM, donc signé James Blake, notre invité ce soir.
France Inter, Mehdi Maizi.
Alors, quand j'étais en train de préparer l'interview, je parlais de toi avec une collègue à moi, Alexia, qui est quelque part d'ailleurs ici dans la pièce. On se disait que dans la dernière décennie, les chansons tristes étaient devenues quelque part à la mode. On avait beaucoup de tristesse et de mélancolie dans la pop. Parfois c'est très bien, parfois c'est peut-être un peu cliché. Mmh. Et on se disait que peut-être t'étais le seul qui ne faisait pas de la musique triste et aussi ennuyante. Mmh. En tout cas, ça semblait vraiment authentique.
Some people find it boring. I mean, I've seen people say
certains le trouvent triste.
Okay. Nous, on trouve pas ça ennuyant, en tout cas.
Je suis heureux que toi, pas.
Je suis sûr que tu as remarqué ça, le fait que c'est devenu une tendance. Peut-être que t'étais en tout cas quelque part à l'origine de ça. Je dis pas que t'étais le seul.
I'm certain I wasn't the origin of sad songs, but I will...
Je suis sûr que j'étais pas le seul. Je suis sûr de pas avoir inventé les chansons tristes. Mais j'accepte le compliment.
C'est un compliment, mais c'est aussi une attaque parce que on a eu beaucoup de mauvaises chansons tristes à cause de toi.
Yeah, I do. I'll take the. You know what? I won't take the responsibility.
Oui, oui, je suis d'accord. Je prends pas la responsabilité pour toutes les mauvaises chansons dans le genre.
Trend in sad songwriting.
Une tendance pour les chansons tristes.
Who vocalize it better than others?
Il y a des gens qui les chantent mieux que d'autres.
It's like there's always gonna be music or landfill.
Yeah. Il y aura toujours de la bonne musique et puis des déchets.
Choose for ourselves how we filter that.
Ce qu'il faut, c'est choisir pour nous-mêmes comment on fait le tri. C'est devenu plus difficile à cause de la quantité de musique qui sort. Peut-être qu'on perçoit aussi les gens plus tristes que ce qu'ils disent être.
That's possible. And actually,
c'est possible.
There's a reason there was a market for it, because people were listening.
Et puis il y a une raison pour laquelle un marché s'est créé, c'est parce que les gens écoutaient cette musique.
I guess I'm overall glad that there was that market demand was being.
Moi, je suis extrêmement heureux qu'il y ait eu cette demande.
You know, sounds a bit corporate, but...
Je vais te paraître très intéressé.
Pour être parfaitement honnête, je t'ai découvert avec ton deuxième album. À cette époque, enfin moi, je viens d'un milieu assez rap, et beaucoup de rappeurs parlaient de toi, même en France. Hein, certains de mes amis rappeurs m'ont fait découvrir ta musique, notamment à l'époque de l'album Overgrown. Mmh. Vraiment, hein, moi, c'est la musique rap qui a amené ta musique à moi. D'ailleurs, beaucoup de rappeurs, hein, de Kanye à Travis Scott. Comment tu expliques ça? Ça fait plus de 10 ans que tu travailles avec des personnes issues de ce genre, le rap. Qu'est-ce que tu penses qu'elles recherchent quand elles t'appellent?
I think rap has historically been one of the most creative.
Le rap, c'est historiquement l'un des genres les plus créatifs.
The place I've looked to.
Je pense que c'est là où j'ai cherché à faire des productions plus stimulantes, plus intéressantes.
I think that's what a lot of.
Et je pense que c'est ce que beaucoup de producteurs et de rappeurs eux-mêmes
looking for when they stray away from
cherchent quand ils s'éloignent de ce qu'ils font dans leur coin.
When they're looking for
quand ils cherchent
for another brush to use,
un nouveau pinceau pour peindre.
Step in and fill that role and
alors là, j'ai pu parfois passer par la porte et puis ça m'a permis de faire de nombreuses collaborations. J'ai grandi en écoutant du rap, la plupart de ma vie. Ma première expérience de rap, c'est un disque que j'avais acheté. C'était sur Voodoo. D'Angelo. Et ensuite, j'ai commencé à aimer le hip-hop. J'ai devenu plus sérieux. Il y avait ce genre qu'on appelait le néo-soul à l'époque. Ce qui n'était pas la meilleure définition d'ailleurs du style.
Même D'Angelo n'était pas vraiment confortable avec cette appellation de néo-soul.
Tout à fait. Et je comprends pourquoi.
That put me on a journey.
Mais moi, ça m'a mis sur le chemin. Je pense que j'ai commencé à aimer le hip-hop si jeune. Ma production a été vraiment influencée. J'étais pas très très loin de ça. Mais en même temps, j'avais encore du chemin à faire. Et j'ai un énorme respect pour les artistes avec lesquels j'ai travaillé. Si on considère chaque situation avec humilité et respect, il y a toujours de l'espace pour le travail en commun et ça donne des résultats enthousiasmants. Je pense que c'est la clé, ça. Récemment, j'ai fait une session radio où j'ai joué tous les morceaux de rap que j'ai produits.
With a couple of R&B things in there as well.
En tout cas la plupart, avec quelques chansons R&B. Et c'était une des émissions les plus satisfaisantes que j'ai jamais fait, depuis longtemps. Parce que j'ai pu réécouter l'évolution dans mes productions. Et c'était bien, c'était comme feuilleter un album photo.
Puisque nous parlions de collaboration entre James Blake et des rappeurs, on va écouter une collaboration que j'aime tout particulièrement, c'est Life Run Air, morceau en collaboration donc avec le rappeur de Chicago, Chance de rappeur.
I land in London, land of Lincoln all on my mind. I plan a plane and back after playing a pack show in due time. I'm roundabout, I bought a round of English ale for my pals. About to sold an ounce of rubbish weed to me for like 200 pounds. I think my English getting real, real bad. Cause it's dumb bitch and I'm real, real bad. No speakers in drum, but I'm real, real good. Dark skin mic, but I still feel bad. I'm a chill, feel addict. I wonder if God's still magic. I wonder if not still magic. Down under the north, it's still a havoc. Why I run around wondering, wondering, pondering life. Life around here. When life ain't really been around here sometimes. Sometimes it's
all time. Part-time love is life round here. We're never done.
Save yourself first.
C'était le morceau Life on Air, donc de James Blake avec Chance the Rapper.
Mehdi Maizi sur France Inter.
T'es un producteur. C'est drôle parce que dans ta musique, on voit que les instrumentaux peuvent changer. Il y a beaucoup d'éléments que tu mets dans un seul morceau. Quels sont les producteurs qui t'ont le plus inspiré?
Bangladesh.
Bangladesh, qui était un des plus gros producteurs des années 2000, qui a notamment fait le morceau Emily de Lil Wayne.
Yeah.
Mais c'est cool que tu le mentionnes parce qu'il est pas tant mentionné que ça quand on parle des grands producteurs de l'époque. Alors qu'il était très gros. Je
suis sûr que si tu passes la plupart des sons qu'il a produits, la plupart des gens dans le monde comprendront la musique. Si tu passes tous les beats qu'il a créé, tous ces sons qu'il a produits, tu peux dessiner une ligne. La plupart des gens comprennent la ligne d'entrée, ce son, sa façon dont il utilise les samples. Bref, c'est énorme. Je pourrais rester ici pendant des heures et parler de ça.
Missy.
Je pense que Missy Elliott, je
ne
dirais pas qu'elle est sous-estimée, peut-être un peu. Elle est super célèbre, tout le monde l'aime. Mais même dans ce métier dominé par les hommes, peut-être qu'elle n'a pas...
Je sais pas.
Peut-être qu'elle ne l'a pas eu, mais enfin, il me semble qu'elle n'a pas eu beaucoup d'attention autour de ses productions.
Elle rappait et elle chantait. Quelque chose qui est devenu normal aujourd'hui.
And to be that talented, to then carry the performance too, I'd say.
Moi, je dirais que ses choix sonores
completely off the wall. They
remind sont complètement barrés. Ils me rappellent, d'une certaine façon, ils me rappellent les productions Wiley des débuts. Tu vois, les beats de Esky. L'époque où la musique, elle se faisait sur des Music Makers 2000, sur une PS2. Des trucs genre Fruity Loops, tu vois. Cette époque, Esky, aussi Danny Weed, ce genre de choses, tu vois. Missy me la rappelle. Peut-être qu'ils ont eu de l'influence sur elle, je sais pas. Mais pour moi, elle avait un son waouh.
On comprend pas tout, mais en tout cas, il se passe quelque chose.
Oui, ça fonctionne. C'est amusant et ça marche. Et ce plaisir qu'elle avait et qu'elle a, je pense qu'il s'est perdu dans beaucoup de productions ensuite. Pas seulement dans le hip-hop. Peu de gens sont apparus ensuite aussi amusants que Missy. Personne, en fait, sincèrement.
Est-ce que tu penses que, justement, être fun, amusant dans la musique, c'est quelque chose qui est de moins en moins présent aujourd'hui?
Ouais, je pense qu'il y a une liberté qui s'est perdue un peu en production. Et moi, je me bats contre ça. Je me demande si nous ne sommes pas tombés dans une sorte d'esprit de sérieux. Je ne sais pas. Dans la dance music underground, on parle des drogues de chaque genre musical, des drogues associées à chaque époque. Donc tu vois, que ce soit la kétamine, etc., toutes ces différentes drogues, elles sont associées à une époque de la musique. Et je pense qu'il y a certainement un contexte sociopolitique qui affecte la façon dont nous composons. Les artistes réagissent à leur époque. Est-ce que ça aurait du sens de produire quelque chose d'aussi amusant que Missy Elliott? Je ne sais pas. Je veux dire, est-ce qu'on s'amuse à notre époque? Pas sûr. Hein. Les années 90, c'était différent. Je m'en souviens, vaguement. Donc, il y a Missy, Pharrell, bien sûr. J'ai travaillé avec Metro assez souvent. Metro, il a quelque chose d'assez particulier.
Je pense... there's a lot more.
Il y en a beaucoup d'autres, mais ce serait une interview beaucoup plus longue.
Oui, c'est un autre podcast qu'on pourrait faire. Je crois qu'il y a quelque chose aussi important quand on aime ta musique, c'est ta voix. Corrige-moi si je me trompe, mais quand tu as commencé à faire la musique, tu ne chantais pas. C'est arrivé après. Quand est-ce que tu as réalisé que tu avais quelque chose de spécial avec cette voix et que tu as commencé à chanter, parce que tu n'as pas une voix vraiment conventionnelle. Quand est-ce que tu as réalisé ça et que tu as commencé à te sentir à l'aise avec ta voix et à commencer à jouer avec?
Je crois qu'une voix... Je ne pense pas qu'on a une voix. Je pense qu'on travaille sa voix.
Tu ne penses pas que c'est un don qu'on peut avoir?
Non, vraiment pas. Je pense que le don... que tu as, c'est ta clé pour le travail. Et par ça, je veux dire une clé spirituelle. Je pense que c'est le don que tu as, et je pense que tout le monde l'a. Comment trouver la clé alors? Tout le monde est différent. Mais je pense que la voix, et c'est une théorie qui fonctionne, même si je peux me planter complètement, la voix, c'est... en vieillissant, en passant le cap de la trentaine, la voix, elle devient l'écho physique de ton cerveau. C'est comme si c'était ta corde vocale, c'est ton corps entier, c'est ton diaphragme. Mais je pense que la façon dont tu précises ta voix et tu changes le ton de ta voix au cours du temps et trouves ta voix, ça se fait selon le message que tu veux transmettre. Et je crois que tu découvres de plus en plus ce message avec l'âge. Ta physiologie change pour soutenir ce message qu'il faut faire passer. C'est comme ça que la voix, à mon avis, elle se développe. On croit qu'il faut travailler sa voix, l'encourager à sortir de son corps. Mais on n'est jamais né avec une voix. Moi, je chantais comme une merde quand j'ai commencé. Je ne savais pas ce que je voulais dire. Je ne savais pas pourquoi. Je voulais juste chanter. J'aimais chanter, donc je l'ai fait. Mais je n'avais pas ma voix d'aujourd'hui quand j'avais 10 ans.
Ok, tu dis qu'on a besoin de travailler sa voix. Donc tu ne crois pas au génie? Je sais qu'un de tes héros, c'est Stevie Wonder. Tu ne penses pas que, justement, Stevie est né avec un peu plus que nous, avec du génie, justement? Est-ce que tu crois au vrai génie ou est-ce que tu penses que c'est toujours une question de travail?
Le génie, c'est un mot qui est presque toujours appliqué à des hommes. Donc, je ne sais pas trop. Concrètement, j'ai jamais compris ce mot. Je ne l'ai jamais vraiment pigé. C'est un mot donc concret, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je constate quand un artiste est vraiment bon, et je peux voir qu'il a généralement investi un temps énorme pour ce résultat. Mais ça me semble, à mon avis, c'est juste une excuse pour des comportements déplacés.
Ok. Ouais, c'est un génie, donc il peut faire ça.
Tu lui fous la paix. C'est un mec en général, donc c'est toujours un homme. Tu laisses produire
ça. Shit to develop.
Grosse merde. Sans être inquiété par la justice. C'est ça pour moi le jeudi. Voilà ce que j'en pense. Et tu vois, je m'en fous s'il ne répond pas à mon texto, c'est un génie. Bah bon, moi je m'en fous. Ma compréhension du mot génie a toujours été assez...
Oui, c'est négatif en fait, c'est un mot négatif pour toi.
Oui, pour moi c'est négatif, oui. Et je trouve que beaucoup de gens qui ont été consacrés par le titre de génie sont en train de tomber du piédestal et de devenir fous parce qu'ils n'ont jamais eu à rendre des comptes. Et qu'ils n'ont jamais été jugés à la même aune que les autres. Mais il y a des gens qui se sont préparés spirituellement quelque part, avec une inclinaison ou un penchant vers quelque chose. Et s'ils sont bien entourés, bien encouragés, je pense qu'ils peuvent atteindre leur potentiel. Mais je crois qu'il y a beaucoup de potentiel inexploité chez des gens qui n'ont peut-être pas été encouragés. Je ne sais pas si c'est l'encouragement ou les circonstances, parfois ça n'a pas d'importance, que plus tard on vous traite de génie. Si vous ne partez pas du bon pied, alors rien ne pourra arriver.
Avec le succès et tout ce qui est arrivé dans ta carrière pendant ces 15 ans, est-ce que c'était important pour toi de bien se comporter? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Parce qu'on peut parfois mal se comporter, ça arrive dans la vie, peut-être encore plus quand on a accès à beaucoup de choses, quand on est connu. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête? Toujours être une bonne personne?
Il ne faut pas que j'ai conscience que je suis bon ou mauvais. On n'est jamais que le fruit de... Il y a le cheminement secret, personnel, privé, et puis il y a les grandes leçons de la vie. Et je ne sais pas si je les ai apprises. Il y a certainement des enseignements qui m'ont pris du temps à intégrer. J'ai vécu à Los Angeles pendant 10 ans. Je sais ce que c'est, la tentation, l'excès, ce qui ressemble à un système de valeurs corrompues. Et je me suis certainement battu avec ça. C'est juste, vous mettez un artiste, qui bien sûr c'est quelqu'un de sensible, vous le mettez dans une situation où il est totalement inadéquat émotionnellement. Alors oui, c'est pas une chose facile d'en sortir. Mais oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Yeah, tu l'as fait. Et d'ailleurs, tout de suite, on va marquer une courte pause musicale, mais on va écouter le premier single de ce nouvel album, Trying Times, le bien nommé Death of Love.
To the death of love.
C'était le morceau Death of Love, notre invité ce soir, James Blake.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Sur ce nouvel album, le premier single, c'est Death of Love, c'est le premier morceau.
Yeah.
Pourquoi est-ce que tu es revenu avec ce morceau en particulier? Est-ce que c'est un morceau qui peut-être résume aussi ce nouvel album?
No, I think it summarized.
Non, je pense que
the moment in time,
c'est
when it came out,
résumer le moment dans le temps où c'est sorti et le ressenti. Je pense que ça fait depuis longtemps d'ailleurs pour moi. Je veux dire, ça a résumé ça pour moi.
I think it was the most.
Je pense que c'était le plus le morceau le plus James Blakey que je pouvais mettre sur. Sur un titre, c'est quelque chose que les gens se sentent familiers avec. J'ai apprécié le plaisir de la voix, le rythme. Et ça prépare pour d'autres moments différents de l'album. Je pense à celui avec Dave. Il y a d'autres moments qui sont vraiment autre chose. Je ne sais pas si c'est possible de dire que c'est une suite, une lignée, mais oui, j'ai juste senti... C'était le début de l'année, tout était encore sombre. Les nouvelles étaient sombres. L'album commence un peu pessimiste. Il commence très agressivement. Et puis ça...
It's vibrant.
Ça devient vibrant, mais ça reste sombre. Et puis ça devient de plus en plus optimiste, plein d'espoir, de joie. Et puis ça, plus ouvert. Et j'ai voulu empêcher les gens d'aller juste là où l'album commence. Les singles ont suivi le cheminement de l'album.
Rather than just being like,
plutôt que de souligner voilà la chanson qui va avoir le plus d'enjeux. Et alors du coup on va mettre ça en premier parce que c'est pas vraiment ça. Je sais pas si ça aiderait les gens à comprendre l'album et je veux que les gens écoutent l'album.
Oui, mais c'est un sujet justement très intéressant. J'ai grandi avec les albums, je crois que toi aussi. Et justement c'est une question très ouverte, hein. Je me pose beaucoup cette question en ce moment. Est-ce que les albums sont encore pertinents? Est-ce qu'ils correspondent encore à l'époque, à la manière dont les gens consomment, pardon pour le mot, la musique? Ils font des playlists aujourd'hui. Et nous, on a grandi avec Zalom parce que c'était aussi une autre époque. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui? Moi, je suis toujours attaché aux albums. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas grandi avec ça. Est-ce que c'est encore pertinent pour eux? Et est-ce que c'est encore pour... Est-ce que ça l'est encore pour vous, pour les artistes qui justement font encore des albums? Est-ce que c'est compliqué de sortir des albums aujourd'hui? Comment tu gères justement avec l'évolution des formats dans la musique?
It is a format from another time.
Oui, c'est le format d'une autre époque, en fait. Mais c'est seulement à cause de la façon dont la musique est distribuée aujourd'hui. Je veux dire, si t'achètes le vinyle, voilà comment tu vas expérimenter la musique.
Est-ce que c'est comme ça que tu veux que les gens écoutent ta musique, en achetant des vinyles plutôt qu'en l'écoutant sur les plateformes de streaming?
Je crois que tu auras une plus belle expérience. Je sais que c'est plus cher. Donc, si c'est pas une possibilité, je crois que les gens encore ont beaucoup de joie avec le streaming. Mais en termes de ce que tu obtiens pour ton argent, en termes de valeur sur toutes les musiques qui ont jamais existé, sur ce service de distribution incroyablement déconnecté, je pense que ce que tu payes, c'est à peu près ce que tu as.
Alors, tu as dit que Death of Love était peut-être la chanson la plus James Blake, la plus fidèle à ton style. Quand on a justement un style, est-ce que parfois c'est un peu terrifiant d'être emprisonné dans son style? Parce que c'est aussi réconfortant de faire des choses qu'on maîtrise. Comment est-ce que tu réussis justement à naviguer entre le côté réconfortant d'avoir un style, de faire des morceaux dans son style, et en même temps la peur d'être enfermé dans une routine ou dans une manière de faire?
I do sometimes feel trapped in that.
Je me sens parfois emprisonné là-dedans.
I mean, you know, Trying Times.
La chanson est très différente de tout ce que j'ai fait auparavant. D'abord, c'est un enregistrement complètement analogique avec le groupe, ce que j'avais jamais fait sur un enregistrement auparavant, à moins que ce soit simplement moi et une guitare. Mais près, tout ce que j'ai fait auparavant a été enregistré électroniquement. Et là, pas du tout. Même s'il y a un sample qui l'introduit, qui le rend un petit peu séduisant. Des fois, j'ai le sentiment, quand il s'agit d'enregistrer, de sortir un album, je me dis, ah, il y a une sonorité très différente de tout ce que j'ai fait auparavant, et je suis très confiant là-dedans. Et je pense que les gens acceptent ça. Et s'ils n'acceptent pas, ben, tant pis. Mais je pense qu'il y a que la plupart des gens acceptent ça, parce qu'il y a suffisamment de familiarité entre nous.
Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai encore 6 pages de questions. Non, mais je crois que tu as des choses à faire. Peut-être une dernière question.
Tu as été génial.
Je sais que tu es un fan de Stevie Wonder, on l'a dit. Quel est ton album préféré de Stevie Wonder?
Mon album préféré de Stevie Wonder. Fulfilling the First Finale, je pense.
That one just
celui-là
breaks me.
Il me
détruit. Il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question.
Non, il n'y a pas de mauvaise réponse, vraiment. Tout à fait.
Thank you so much.
Merci James Zelek et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission qui a été préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Mathias Volant. La programmation musicale est signée Juliette L'Orphelin. À la technique ce soir, il y avait Benjamin Perru et Guillaume Roux à la prise de son, Colin Colantonio et Lola Garo à la prise de vue et Harold Manning à la traduction. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous recevrons la chanteuse, rappeuse, artiste Lala Ace. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.